Bonjour.
Bonne matinée jusqu'à 11h, Maryse. Christian Morin avec vous pour Ça va la vie, 8h45 minutes. Ce matin, journée Sardou, donc il sera là jusqu'à 11h. Nous le retrouverons en témoin, habillé en témoin, j'allais dire, aux côtés de Jean-Luc Hennig et Yohann Gam à 8h50.
Voilà, alors imaginons un scénario pessimiste. Vous êtes encore jeune. Celui ou celle avec qui vous vivez soudain a un accident grave. Mutilé à vie, qu'est-ce que vous faites? Entre votre vie et la sienne, quels aménagements possibles? C'est le cas donc aujourd'hui difficile de Françoise. Qu'est-ce qu'elle doit faire? 232 18-18.
Et notre grand témoin ce matin, c'est donc Michel Sardou. Merci d'être avec nous, Michel Sardou. Michel Sardou, 50 millions de disques en 13 ans. Et puis un tas de chansons qui ont fait rêver et qui ont passionné les Français. America, les balles populaires, le rire du sergent, qui est d'ailleurs passé qui m'a fait le plus rire personnellement. Les villes de solitude, le France, la maladie d'amour. Cette maladie d'amour qui précisément ronge aujourd'hui Françoise, dont nous allons écouter maintenant l'émouvant témoignage. Françoise.
À la vie jusqu'à 11h avec Christian Morin.
Et Maryse.
Et notre invité d'honneur aujourd'hui toute la journée sur Europe 1, Michel Sardou.
On n'ose pas lui parler parce qu'il veut écouter de la musique.
C'est délicieux.
Il m'a dit bonjour quand même, non?
Oui, je dis bonjour.
Quand même.
Musique.
Rebonjour.
Mais en musique alors.
Michel Sardou, il est.
On verra après alors peut-être.
Bien sûr. Oui. On va dire qu'on a été long sur le générique.
Et toi, on ne parle pas sur les intros.
Je peux. On ne parle pas au début des chansons, on ne parle pas non plus sur la fin. C'est vrai que c'est une habitude qui se perd d'avoir une espèce de ritournelle comme ça à la fin d'une chanson.
La maladie du meneur de jeu, ça, monsieur. Ouais. De parler sur les introductions.
La maladie d'amour, en quelque sorte, si j'ose dire, puisque Michel est là. Michel, tu te souviens de ton tout premier spectacle?
Oui, oui.
C'était quand?
C'était à l'Olympia, je remplaçais les. Ah, tu parles du tout premier de ma vie.
Oui, la première fois où tu es monté sur scène.
C'était en 66, pardon. Et j'étais le lever de rideau d'un spectacle de François de Gueldre à Bobino.
Oui.
Et alors à l'époque, c'était les premières parties fleuves, tu sais, il y avait là. Moi, j'étais levé de rideau complètement inconnu, je chantais quand même 5 chansons. Il y avait derrière encore un numéro, il y avait les haricots rouges, il y avait Christian Méry, il y avait Gribouille.
Oui.
Il y avait plein de gens comme ça. Et puis il y avait François de Gueldre qui passait en vedette à l'époque à Bobino. Et j'ai un souvenir particulier parce que c'est là où les gendarmes sont venus me chercher pour m'emmener à l'armée.
C'est vrai, tu l'avais évoqué dans une émission de télévision. Oui.
Et c'est bon, je suis resté quelques jours à Bobino, et puis voilà. J'ai vu que ma carrière était complètement finie quand j'ai vu les gendarmes arriver. J'ai fait mes adieux au show business, à tout.
Le même track, là, pour le Palais des Congrès?
Un track différent qu'à cette époque-là, parce qu'à cette époque-là, je découvrais tout, alors j'avais peur de tout et de moi.
Plus ou moins intense, finalement, avec l'expérience.
C'est un track complètement différent. Je crois que c'est comme les sportifs, d'ailleurs, les choses en cause deviennent de plus en plus serrées, l'enjeu est plus fort. C'est-à-dire que glisser maintenant, c'est dramatique. Quand on débute, beaucoup moins, parce que bon, c'est un débutant, on a droit à l'erreur, on a le droit à mettre dans le filet, mais après, c'est plus dur.
Dans le track, c'est un peu plus fort.
Oui.
Fois, hein. On imagine mal deux gendarmes venant chercher Sardou au Palais des Congrès.
Non, c'est vrai. C'est jamais.
Aujourd'hui, 8 jours pour 2 à l'Eldorado Jet Tour en Nianing, au Sénégal, avec Air France.
L'Eldorado Nianing, vous fermez les yeux, vous imaginez des centaines d'oiseaux, des bungalows en pleine nature, un petit déjeuner à la clé, vous serez dans un jardin tropical et juste à côté, Monsieur Sardou, la plage de sable fin, Maryse qui passe en maillot de bain. Maryse,
oui.
Pense à apporter la crème. Le soleil va taper fort.
Oh, j'ai une nouvelle huile extraordinaire.
Et ces petites paillotes, pas celles de Maryse, hein, elles vous attendent. Tout ça vous attend. 11h moins le quart.
C'est quoi ton huile?
Je te dirai. C'est une hawaïenne tropique, tu
connais. Ah oui, je connais très bien. C'est pas
mais
nouveau.
Mais la
professionnelle.
Hein.
À la professionnelle.
Il y a 3-4 ans déjà, oui.
Parce qu'il y a des bronzeurs professionnels.
Il y a des bronzeurs.
Ah, c'est formidable.
Alors celle-là, elle brûle, je peux te dire.
Seule huile qui ne protège pas. Mais alors après, c'est super.
Moi, j'ai intensif de Guerlain, ça te dérange pas.
C'est plus doux, non?
Ça fait très mal.
Alors nous partons de Saint-Brieuc.
Première étape.
Oui, première étape. Saint-Brieuc, direction sud.
Et on va au Sénégal.
Alors écoutez, on va aller au Sénégal si on gagne le voyage, oui. Dans cette ville, une table des marchands et un tumulus de la montagne de la fée. Dans ce port de pêche, personne n'est mégalo, mais le mégalithique est roi, même pendant les vacances. Le golfe à l'entrée duquel la commune se situe est une petite mer, M.E.R.
Où est-ce qu'on part?
On part de Saint-Brieuc.
On part de Saint-Brieuc.
Pas la réponse.
Direction sud.
Direction sud. À trouver.
Alors on répète, dans cette ville, une table des marchands et un tumulus de la montagne de la fée. Dans ce port de pêche, personne n'est mégalo, mais le mégalithique est roi, même pendant les vacances. Et puis le golfe à l'entrée duquel la commune se situe est une petite mer, 232, 15, 15 maintenant.
Pour toute la moitié ouest du pays.
Musique. Clapping Song, Piazzadora. En plus, ça chante, hein. Piazzadora, cette adaptation, enfin une reprise plutôt de ce thème qu'on avait entendu dans les années 60 avec les Surf Clapping Song. La boussole.
La boussole avec la première étape. Alors, numéro 1, que proposez-vous? Bonjour.
Oui, bonjour. Lorient.
Lorient.
Pourquoi?
À cause de quoi?
Ou à la direction, surtout.
Ah oui, c'est pas suffisant. Donne des indices, ça doit vous aider.
Oui,
ça devrait. Merci quand même.
Merci. Numéro 2.
Oui, je propose Loch Maria Kerr.
Pourquoi?
Pour la table des marchands.
Vous êtes bretonne ou quoi? Vous connaissez bien la Bretagne.
Je ne suis pas bretonne.
Eh bien, c'est ça, madame. Moi,
c'est l'aspect mégalithique des choses qui vous a mis sur la voie.
Pardon?
C'est l'aspect mégalithique,
oui,
des
c'est
choses.
Ça.
Ah,
oui.
C'est ça?
Oui, oui.
Ah, bon, on a bien fait d'en parler, alors.
Oui.
Nous allons délayer.
Cette fameuse table des marchands?
Oui, oui, je connais. Enfin, j'y étais. Oui.
C'est vraiment, je crois, l'un des plus grands dolmens qui existent. Hein.
Oui. Mm-hmm.
Alors, quel est votre nom?
Gisèle Gallet.
Gisèle. Et vous appelez d'où, Gisèle?
Saint-Brieuc.
Oh, bah oui. Il n'y a qu'une bretonne qui pouvait trouver. Comme
oui,
quelqu'un
plus,
qui habite
en
dans
plus,
le
nous
coin.
Partons de Saint-Brieuc ce matin.
Oui,
vous allez y rester parce qu'il faut qu'on vous retrouve maintenant 11h moins le quart.
Oui.
Bon, quelques indications à vous donner. Il y a une petite histoire qui est jolie. Qu'est-ce que ça veut dire, Morbihan?
La petite mer.
Mais
voilà, bravo, Gisèle. Exactement.
On ne peut plus rien vous dire, alors.
Oh, non.
Hein?
Et Loch Maria Kerr, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite station balnéaire et un port de pêche. Hein. C'est ravissant là-bas, c'est très beau.
Vous savez à quoi ça servait, les dolmens?
Non, de tombeau peut-être, je ne sais pas.
Ah, ça servait à marquer l'emplacement ou les limites des territoires sacrés du temps des Gaulois, n'est-ce pas?
Ah, bon.
Et c'est un petit peu plus haut, en Bretagne, un tout petit village avec Astérix et Obélix.
Ben, voilà.
On en reparlera dans la chambre tout à l'heure.
Hein, pourquoi?
Parce que c'est pas forcément ça.
C'est pas que ça, M. Sardou, explication.
Mais tout à l'heure. Tout à l'heure.
Non, mais dis-le maintenant.
Tout à l'heure, c'est très long.
On parlera plus de dolmen après.
On a dit tombeau, hein, on a dit souvent tombeau. Je sais pas si tu es d'accord
on
avec ça.
On s'est souvent trompé.
Oui, on s'est souvent trompé. C'est autre chose. Ah bon,
elle a bien fait venir. Bon, alors, Gisèle.
Sur les dolmens.
Ma petite
bien, Gisèle
de Saint-Brieuc, vous avez donc un cadeau d'étape, c'est un fer à repasser de voyage, ça vous va?
Oui, merci.
Que nous avons choisi au Galerie Lafayette pour.
Il vous repasserait 11h moins le quart.
D'accord.
Et bravo pour cet Eldorador, bonne chance surtout. Eldorador Jet Tour, des vacances en toute liberté, faites tout ou ne faites rien, vivez votre exotisme à la carte.
Alors à tout à l'heure, 9h45, pour la deuxième étape.
C'est dolmen. Pas des tombeaux.
Il faut expliquer.
Pas des territoires, faut le dire maintenant, parce qu'on ne verra peut-être pas.
C'est comme ça.
Non, mais en gros.
Les druides pensaient qu'il y avait des courants souterrains, des courants d'énergie tellurique, qui étaient l'équivalent des courants du ciel en haut. Alors, ils mettaient sur ces points forts, sur ces points où les hommes allaient se régénérer, si tu veux. C'était des endroits de régénération. Par la suite, souvent, quand la religion catholique a succédé à la religion celtique, enfin, ils sont mêlés toutes les deux, ils ont construit ces cathédrales aux mêmes endroits.
Oui.
Parce que c'était des régions où tu sentais, quand tu passais dans ces pièces, dans ces cathédrales, tu sens une espèce de vibration qui t'arrive, tu te régénères. Alors ça remonte au temps des druides, etc. Mais ce n'était pas forcément des tombeaux. Ça pouvait être des endroits de prière, ça pouvait être des temples, si tu veux. C'était des premiers temples, mais pas forcément des marques de tombeaux.
De tombeaux, c'est long, simplement de territoire.
Il faut
territoire sacré, quoi. Ça marquait les
choses. Ça marquait des endroits où il y avait une énergie qui émanait de la Terre. Et qui,
c'est après Bobineau que tu as commencé à t'intéresser au
c'est bien avant, c'est sous Henri IV.
Michel, on va revenir un petit peu sur ce spectacle du Palais des Congrès. Il y a un matériel énorme.
Oui.
Oui. C'est le même matériel que tu avais pendant la tournée.
C'est le même que j'avais pendant la tournée, que je n'ai pas pu monter partout parce qu'il y avait des endroits où les chapiteaux étaient trop bas, parce que bon, on n'est pas encore équipé pour partir avec ce matériel-là. Agrandi encore un peu plus parce que le Palais des Congrès est une scène large, donc il faut s'en servir complètement.
Oui.
On ne peut pas faire des trous de chaque côté. Alors c'est une scène mouvante qui bouge, qui évolue, qui se transforme à vie.
On a déjà eu un rapport dans Ça va la vie sur le spectacle Sardou avec Maryse.
Oui, parce que je suis allée voir à Bruxelles dans une énorme salle. Hein, qui est...
ouais.
Mais alors, il semblerait que tu reviennes un petit peu à une ancienne école, c'est pas l'aspect de tous les chanteurs aujourd'hui, c'est-à-dire un rodage de spectacle avant de l'offrir aux Parisiens, un rodage de spectacle en province. Enfin, rodage, présentation du spectacle en province, plutôt.
Oui. On va savoir si la réaction des spectateurs pendant la tournée que tu as faite là juste avant t'a fait changer des choses.
Bien sûr. Bien sûr, il y a un tour de chant, ça se bâtit, ça se construit petit bout par petit bout. On ne peut pas d'un coup donner un ordre, savoir exactement. Par exemple, j'ai été déçu sur certaines chansons que je pensais qu'il allait accrocher plus.
Oui.
Et puis d'autres qui m'ont surpris, justement, vice-versa. Donc on les déplace, on fait une... Il faut que le spectacle monte, en fait. Il faut que ça commence à, un certain point et que ça ne fasse que monter jusqu'à la fin. Alors là, le test en province avec des publics différents tous les jours fait qu'on sait exactement quelle chanson faiblit, si l'interprétation passe mieux d'une autre façon, tous ces détails-là qui sont très importants, c'est ces petits détails-là qui font qu'un spectacle...
Et une chose à laquelle aussi tu t'attaches beaucoup, beaucoup avec notre ami Revault, c'est le son. L'orchestre.
Le son de l'orchestre est capital maintenant. En plus, j'ai beaucoup de musiciens, donc c'est un gros bateau.
Combien ?
Attends, il y en a une vingtaine sur scène. Okay. Qui sonne pas mal et il faut quand même les doser, ce truc, j'ai mis des synthés spéciaux, j'ai fait venir des spécialistes comme Loubet, comme Ducot, etc., qui sont des gens qui jouent du synthé merveilleusement bien, un deuxième batteur qui joue de la batterie électronique, enfin il y a des choses assez...
Il y a de la clarinette quand même.
Oui, il y a toujours, à l'école, je joue toujours de la clarinette, je joue le truc où tu enregistres.
Bien, Michel, on va te retrouver dans un petit instant avec Jean-Luc Hennig et Guillaume Kengen. Et puis, des publicités tout de suite. 9h52, nous revenons donc au cas proposé par Jean-Luc Hennig et Guillaume Kengen avec Michel Sardou comme témoin ce matin.
Alors, 1980, année des handicapés, 450 millions de handicapés dans le monde. Et il faut bien, je suppose, qu'on s'intéresse un jour au problème de la sexualité des handicapés. En France, 2 millions de handicapés, 100 000 paraplégiques, dont le tiers d'ailleurs à la suite d'accidents de voiture. Mais on peut devenir paraplégique ou tétraplégique à la suite de n'importe quel accident. 3 000 Français sont paralysés chaque année après une chute dans une piscine ou dans une baignoire, donc un accident quotidien. Alors, Michel Sardou, imaginons l'impossible qui vous arrive, cet accident tragique qui vous laisse paralysé. Est-ce que vous seriez plutôt tenté de demander à la personne avec qui vous vivez de se sacrifier pour vous, bien ce que vous lui diriez au contraire, va-t'en, je préfère souffrir tout seul. Question difficile.
Justement, oui, c'est très difficile à répondre. J'ai une théorie, si vraiment j'étais... c'est pas un truc en ce qui me concerne seulement, je dis ça en ce qui me concerne, moi j'essaierais de ne pas survivre, moi. Mm-hmm. C'est-à-dire, si je ne peux plus bouger, si je ne peux plus vivre, si je ne peux plus avoir des rapports normaux, à quoi bon, je veux dire. Alors maintenant, je vous dis ça parce que je suis en pleine santé. Il se peut que si ce malheur-là m'arrivait, j'essaierais peut-être de m'accrocher, de me battre quand même. Hein,
Et peut-être qu'à ce moment-là, précisément, vous penseriez à la rééducation.
Je pense que c'est une chose où moi, je ne peux pas répondre. Franchement, c'est trop délicat, c'est trop dur. C'est une réponse qu'on trouve en soi, selon son caractère, selon ses espérances, selon sa vie. Je pense que cette femme va trouver sa solution en elle. Son choix sera le bon, de toute façon. Parce que demander à quelqu'un de se sacrifier, c'est... très injuste, demander à quelqu'un de supporter, et puis je pense qu'un homme qui... Enfin, je parle de moi, là. Je pense que si j'étais dans cet état-là, je ne serais pas très vivable, je ne serais pas agréable, je deviendrais certainement aigri, certainement dur à supporter. C'est pour ça que dans ma tête, je pense, là, à froid, comme ça, ce matin, que j'essaierais de m'achever, moi. Mais tout ça, c'est des si. Je ne peux pas apporter une réponse, je ne peux pas conseiller cette femme, je ne sais pas quoi lui dire.
C'est-à-dire que nous avions reçu un jour Patrick Segal, donc, qui est un exemple au contraire de lutte, de survie à tout prix et qui a réussi.
C'est une question de tête.
Absolument.
C'est une question de tête. Moi, je n'aurais pas la tête, je ne crois pas que j'aurais ce courage-là.
Alors, Françoise, vous nous entendez ?
Françoise ? Oui, vous parlez bien fort.
Oui.
Alors où en êtes-vous un petit peu de votre débat intérieur, effectivement, en ce qui concerne ce choix? D'abord, beaucoup de choses ont été dites sur le fait que peut-être la sexualité de votre mari, on ne vous a pas beaucoup renseigné dessus. Le fait que dans ce cas-là, dans cette situation-là, eh bien, les femmes restent et les hommes tentent à divorcer. Est-ce que ça vous amène à une réflexion sur le goût du sacrifice, peut-être, en majorité chez les femmes ou quelque chose de ce genre-là? C'est un phénomène assez étrange, mais tout à fait prouvé par les statistiques. C'est-à-dire qu'apparemment, on se sacrifie plus volontiers, effectivement, du côté des femmes que du côté des hommes dans cette situation.
Ben oui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Les hommes essayent de se décharger du fardeau eux-mêmes, à ce moment-là même, pour aller très loin dans ce que je disais. Les femmes on donne c'est la chose bateau, ce sont des mères, tout le temps, ce sont des mères pour leur mari aussi.
Y compris pour un mari, notamment un mari qui est paraplégique.
J'allais dire surtout, peut-être. Alors, il y a quand même ce réflexe qui est féminin, je pense, plus féminin que masculin. Moi, je vous dis, c'est la fuite en avant, c'est la fuite dans le trou noir. Bon, ça, c'est une forme de lâcheté, c'est pas une forme de courage. Hein, c'est...
Vous réagiriez en révolte.
Oui, moi, je me jette dans l'eau. C'est tant pis.
Mais elles construisent la vie.
Elles essayent de construire autour, ce qui est très estimable. Mais je me doute bien que ça doit être un enfer perpétuel. Ça doit être un déchirement. Alors, est-ce qu'elles peuvent le supporter longtemps? Est-ce que...
Et sans aucune aide extérieure, et sans aucune autre.
C'est ça. Et puis surtout, je pense qu'il ne faut pas rester seul dans ces cas-là. Il faut pouvoir s'entourer. Il faut pouvoir compter sur des amis, si on en a. Peut-être essayer de pas y penser, c'est facile comme ça, mais j'allais dire de ne pas tout mettre dessus, de pas mettre tous ses gains dessus comme à la roulette, si vous voulez.
Reconstituer un peu une vie affective. Effectivement, vous vivez un peu seul, Françoise, nous en avons eu l'impression, et le docteur Weinberg aussi.
Cela dit, beaucoup d'appels aujourd'hui pour vous, Françoise, beaucoup d'appels de femmes ou d'hommes même.
À demain avec un autre cas à faire.
Deuxième heure de Ça va la vie jusqu'à 11h. Maryse Christian Morin est votre invité aujourd'hui à la maison par l'intermédiaire de la radio.
Alors, musique, il va dire musique.
Michel Sardou, c'est ce que j'allais dire, oui.
Il va mieux y aller tout de suite.
On y va tout de suite.
On parlera après.
Les années 30,
si tu veux.
Ça va comme ça?
Allez.
Mais je ne veux pas passer que mes disques, hein, je dis musique en général.
Oui, on a compris ça.
Là.
Les années 30, Michel Sardou. Michel, ça fait partie des toutes nouvelles chansons, ça, qui vont figurer dans le spectacle.
Il y en a très bien 6, hein, nouvelles. Vraiment.
Dans le spectacle?
Oui, il y en a
6 nouvelles.
Comme dans le journal, lui, il y a eu une interview très intéressante de Paul Lefebvre. Je voudrais qu'on reprenne une phrase qui, à mon avis, colle très bien avec ce que nous évoquions tout à l'heure, à savoir Bobineau, il parlait des congrès maintenant, où tu dis « Le public veut du spectacle. Avant, on partait en tournée avec 3 musiciens, on chantait dans les salles dégueulasses. C'était triste, les fameuses galères, bien entendu. Maintenant, c'est du grand spectacle, mais avec la plus belle machinerie du monde, une mauvaise chanson se ramassera quand même. Un jour, je repartirai seul. » Ce qui veut dire que, sans que ce soit péjoratif, le terme, mais tout ce qui est fioriture autour d'un spectacle, ou l'habillage, il faut quand même que le chanteur aille au charbon.
C'est évident. Les gens viennent avant tout écouter des chansons, leurs chansons en général. En plus, il faut chanter celles qu'ils veulent entendre. Et alors, si, en plus de ça, il faut donner comme un espèce de cadeau, comme un surplus, l'enveloppe.
Mais il semble justement que tu ailles de plus en plus dans un sens, c'est de raconter aussi une chanson. Tu la chantes, mais tu la racontes. Tu la donnes un peu plus au public que ça ne se faisait il y a quelques années. Il y a un peu plus de sourire aussi, c'est ce qu'on reçoit en tout
cas.
Oui,
j'ai voulu changer, hein. Il faut bien évoluer, je vais pas rester toujours à chanter J'accuse et tout ça, c'était un peu... Bon, c'était la période, j'appelle ça l'âge de pierre, moi, si tu veux. Bon, maintenant,
on revient
à des choses
à la période
plus normales, oui, plus...
Au dolmen.
Plus variété, plus variété. Ce qui n'empêche pas que dedans, il y a encore des chansons dites dures, mais ce que je veux dire, c'est que j'essaie de faire de plus en plus de variété. C'est-à-dire que... Comme le public qui vient me voir est assez large, finalement, il y a des gens qui viennent pour telle chanson, d'autres pour telle autre, pour voir aussi du grand spectacle, parce qu'ils savent, ils l'ont entendu, qu'il y a des choses, des effets spéciaux, des choses comme ça. Donc je donne tout ça, mais l'essentiel reste la bonne chanson.
Est-ce que tu penses un peu plus à ton père, finalement, au travers de tout ça? Parce qu'avec le mélange du cinéma, l'aspect comédie se mélangeant à la chanson, est-ce que tout ça, ça ne va pas déboucher sur encore autre chose après?
Ça va, un jour, je souhaite que ça débouche sur autre chose, parce que moi, j'aime pas rester dans mon truc, j'aime pas rester dans mon cirque tout seul, je veux toujours aller voir ailleurs ce qui se passe, mais si tu veux, c'est long, c'est lent, parce qu'on a
C'est trop lent?
Non, c'est pas trop lent. Moi, je pense que les choses qui doivent avoir lieu auront lieu, se feront. Bon, alors maintenant, quand, comment, il ne faut pas bousculer les gens, il ne faut pas... Ce que j'essaie de montrer dans ce spectacle-là, c'est d'autres facettes. C'est-à-dire que, bon, les gens qui m'ont vu l'année dernière ont vu un spectacle qui était un spectacle, bon, conçu autour de mes chansons, avec le personnage que je suis, etc. C'était tout dans la sobriété, j'essayais d'avoir justement le dépouillement, etc. Là, cette année... Je montre autre chose. Bon, le sketch m'apporte le côté sourire, que c'est rare. Pour les gens, je ne représente pas un type qui va faire rire une salle. Et moi, j'adore faire rire les gens. Bon, donc, ça m'amuse de le faire. Je l'ai vu en tournée, je l'ai testé en tournée. J'ai vu que les gens riaient. Bon, alors, il y a des jours où je n'ai pas encore bien l'habitude de le jouer. Moi, ce n'est pas mon... C'est pas mon métier.
C'est extraordinaire, moi.
C'est pas mon métier. Donc, il y a des soirs où je l'ai raté, par exemple.
Oui.
Bon, alors, ça arrive. Il faut bien. Mais je veux montrer que je peux aussi parler, que je peux aussi faire rire, que je peux aussi émouvoir, que je peux aussi. Montrer des tas de choses, d'autres que simplement cette image que beaucoup de gens ont gardée et que beaucoup de gens qui parlent de moi dans la presse ont gardée. C'est-à-dire, on dit toujours, Sardou, c'est dur. Bien sûr, c'est dur. Mais il n'y a pas que ça, je veux dire, je ne suis pas tout le temps tendu, je ne suis pas tout le temps sous pression, je ne suis pas tout le temps en train de défendre une cathédrale, tu comprends?
Moi, quand je t'ai connu il y a 8 ou 9 ans, je t'avais déjà vu sourire. Hein.
Oui, non, mais tu sais, ça, c'est... Oui, mais depuis, ça, maintenant, ça fait 9 ans, c'est la deuxième fois, mais je veux dire, très souvent, ça m'arrive, maintenant, je suis une fois par an, tu comprends? C'est,
bon, c'est alors, demain.
Non, mais je veux dire que ce spectacle est important pour moi, parce que ce n'est pas un tournant, c'est jamais un tournant, c'est une évolution...
C'est une marche supplémentaire.
Qui j'espère, en amènera une autre et une autre jusqu'à... Jusqu'à un moment devenir peut-être acteur, peut-être faire des trucs, faire des pièces de théâtre, faire je ne sais pas quoi, des spectacles spéciaux. Moi, mon rêve, c'est de créer, c'est peut-être de faire du cirque. J'adorerais faire du cirque.
Pourquoi pas?
Je ne sais pas. Mais aller avancer. Je veux pas qu'on me fige, je veux pas qu'on me laisse...
Pas d'étiquette.
Non, enfin oui, ou alors une étiquette chanteur de variété. Mmh. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça par contre, c'est tout à fait normal. Mais pas qu'on me dise, il écrit des chansons où il veut violer les femmes. Bon, c'est pas vrai. C'est un peu idiot.
Ok, Michel, dans un petit instant, la boussole, et on retrouve Michel Sardou vers 10h20.